Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. L'actualité reste marquée par la confirmation de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, par la Cour constitutionnelle. Arrêt rendu hier mardi, la Cour a ainsi déclaré la requête de Théodore Ngoï recevable mais non fondée faute de preuves. Les eaux du fleuve Congo continuent à inonder des quartiers à travers le pays. C'est le cas de Karigré, quartier Kinsuka pêcheur dans la commune de Ngaliema, ici à Kinshasa. Les habitants sont sans abri depuis plus de 3 semaines. Cette population ne sait plus à quel sens se vouer. Et puis, l'invité de ce midi, Franck Saloumou, chef technique de la régie des eaux Bukavu, il fait un état des lieux de la situation de pénurie d'eau constatée dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Madame, Messieurs, bonjour. La Cour constitutionnelle confirme l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, avec 73,47%. Elle dit prendre en compte la décision de la CENI annulant les élections dans les circonscriptions de Massimanimba et de Yakoma. Au cours de son audience publique de hier mardi, elle a rendu 2 arrêts par lesquels elle a déclaré la requête du candidat Théodore Ngoï recevable mais non fondée. Parmi les motifs évoqués, manque des preuves et parce que les irrégularités des opérations de vote dénoncées n'ont aucune influence déterminante sur les résultats de la présidentielle publiée par la CENI selon la Cour. Et la requête de David Mpala a été simplement déclarée irrécevable pour défaut de qualité. Jeff Ngoï.
La Cour ne pouvait pas dire autre chose si ce n'est que le droit. C'est la première réaction de Michel Eboma, avocat du président proclamé définitivement élu. Comme la loi l'indique, la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle siège en matière des résultats d'une élection, elle est juge de la sincérité de vote. Elle a cherché à savoir si des suffrages exprimés, le candidat proclamé par la CENI est celui que le souverain primaire a réellement élu. C'est ce qu'elle vient de faire. Pour la défense de Félix Tshisekedi, désormais le débat sur l'élection présidentielle est définitivement clos. De la sincérité de vote, la Cour s'est rendue compte que les irrégularités évoquées par le contestataire, l'annulation des élections dans certaines circonscriptions de la CENI à cause des incidents dénoncés, tout cela n'influe pas sur l'ordre d'arrivée des candidats. C'est du droit pur, selon Michel Eboma. Proclamant ainsi les résultats définitifs de l'élection présidentielle, la Cour fait savoir qu'elle a reçu de la CENI des plis des PV bureau de vote par bureau. Elle a vérifié la sincérité des résultats. Elle argumente également qu'elle avait déjà répondu dans le fond aux préoccupations de Théodore Ngoï dans son arrêt rendu le 14 décembre sur les irrégularités dont elle était saisie par quelques opposants candidats à l'élection présidentielle.
Et parmi les premières réactions à la réélection de Félix Tshisekedi, notez celle de la Belgique qui lui adresse ses félicitations pour son second mandat en tant que président de la RDC. Autre réaction, celle de l'opposant Martin Fayulu. Il estime, je le cite, que la fraude planifiée et exécutée par la CENI est tellement flagrante et grossière que la République est aujourd'hui trahie. Le peuple congolais est humilié par M. Kadima et la CENI qui ont systématiquement violé la Constitution et la loi électorale. Fin de citation. Pour sa part, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui a félicité Félix-Antoine Tshisekedi, a écrit sur son compte X, je cite, « La publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle en RDC par la Cour constitutionnelle m'offre l'agréable occasion de réitérer mes vives félicitations et mes vœux de succès à mon frère et homologue, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, réélu à la tête de la RDC ». Par ailleurs, la Commission diocésaine Justice et Paix, CDJP Maniema, invite la Commission électorale CENI à identifier et sanctionner ces agents qui ont octroyé des dispositifs électroniques de vote et des bulletins de vote aux candidats invalidés. Le coordonnateur de la CDJP Maniema l'a dit hier à la presse à Kindu. On écoute Maître Salé Moucha Babaudouin dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Nous savons que c'est la CENI qui a commandé les machines. C'est la CENI qui a programmé ces machines. Et ce n'est que la CENI qui a mis en lien les machines et les serveurs. Mais comment aujourd'hui la CENI nous publie seulement le nom de fraudeur et annule leur suffrage, mais sans que certains agents aussi de la CENI qui ont été impliqués dans ce fraude ne soient pas aussi connus par la population. Et curieusement, quand vous regardez, tous ces candidats-là sont les membres de la famille présidentielle. Et c'est que la CENI devrait aussi prendre le courage d'annuler aussi les résultats du chef de l'État, parce que les élections étaient combinées. On ne peut pas seulement extirper pour législatif national et provincial sans que cela ait d'impact sur le résultat présidentiel. Et là, nous sommes très satisfaits que la CENI vient de confirmer que ces élections vraiment ont été émaillées de beaucoup de fraudes. Les enquêtes doivent continuer. Certains agents de la CENI doivent être récupérés.
Je vous le disais en titre, ici à Kinshasa, les habitants du quartier Kinsuka Pêcheurs, précisément ceux de Karigres dans la commune de Ngaliema, sont sans abri depuis plus de 3 semaines. Cette situation est consécutive à la crue des eaux du fleuve Congo qui a provoqué l'inondation du dit quartier. Cette population ne sait plus à quel sens s'est vouée. Elle lance un cri de détresse auprès des autorités compétentes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rendons-nous au Nord Kivu. Le comité provincial de sécurité annonce une série de mesures visant à lutter contre la criminalité en hausse depuis quelques semaines dans la ville de Goma. C'était lors d'une réunion présidée hier mardi par le gouverneur militaire à Mugunga, un quartier ouest de la ville de Goma. Réunion à laquelle ont participé les cadres de base des 18 quartiers de la ville. Selon le porte-parole du gouverneur, ces mesures pourraient aller jusqu'à interdire toute circulation des taxis motos au-delà de 18 heures locales. Le compte-rendu de Bernard Nyangi.
Les participants à cette réunion ont commencé par passer en revue l'ensemble des cas de criminalité qui augmentent de manière exponentielle de jour en jour dans la ville de Goma. Ceci a conduit à l'annonce d'une série de mesures qui devraient entrer en vigueur incessamment, dit le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaiko.
Incessamment, il n'y aura plus de question que les motos circulent à partir des 18 heures. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18 heures. Le comité provincial de sécurité a promis d'ouvrir les postes de police. Il a été aussi demandé à la population d'accompagner cette police.
Un arrêté du gouverneur devrait sortir incessamment pour la mise en vigueur de ces mesures, indique le lieutenant-colonel Guillaume Njike. Précisons que les chefs des 18 quartiers de la ville de Goma ont pris part à cette réunion délocalisée exceptionnellement au quartier Mugunga. Dans ce quartier, comme dans plusieurs autres de la ville, plusieurs civils ont été tués et d'autres blessés récemment par des bandits armés, certains opérant à moto. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Le M23 dit n'avoir jamais imposé une restriction aux activités de la population, y compris celles liées au transport de la nourriture et aux produits essentiels. Ceci est contenu dans un communiqué du M23 publié hier mardi 9 janvier sur son compte X. La rébellion réagit aux allégations de la société civile de Rutshuru diffusées sur Radio Okapi lundi dernier. La dite société civile accusait le M23 d'avoir interdit aux populations de récolter leurs produits champêtres dans la zone de Kaunga, 5 km de Kiwanja, ce que ne reconnaît pas le M23 dans ce communiqué. Rendons-nous en Ituri. Le nombre des cheptels a sensiblement diminué suite à la persistance de l'insécurité dans cette province. La plupart d'éleveurs ont déplacé leurs vaches dans la province voisine du Haut-Uele. D'autres importent les bovins de l'Ouganda pour être vendus aux consommateurs, précise l'association des bouchers en Ituri. Le président de cette association ajoute que 750 vaches ont été abattues durant la période des fêtes de fin d'année 2023 dans la ville de Bunia, contre plus de 1500 les années antérieures. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
L'insécurité qui persiste dans la province de l'Ituri depuis environ 2 décennies affecte sensiblement l'élevage des bovins, caprins et porcins dans plusieurs localités, notamment dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où les groupes armés sont encore très actifs. Certains bouviers ont été tués et des centaines de vaches volées par des miliciens, ce qui a obligé de nombreux éleveurs à déplacer environ 70% des vaches dans les territoires d'Aru et Mahagi en Ituri et dans la province du Haut-Uele, notamment à Isiro, Giro et Ouacha. Le vétérinaire de l'abattoir industriel industrielle de Bounia.
Les éleveurs ont fait migrer leurs bêtes vers Berunda, tête du Sirop. Ils traversent des moments les plus difficiles parce que dernièrement, il y a eu l'attaque de nos éleveurs qui provenaient de l'Ouganda.
Le président des bouchers en Ituri déplore également la multiplicité des barrières et l'insécurité sur les axes routiers pour acheminer des bêtes à Bounia, chef-lieu de la province. Bagou Makassa.
Il y a tracasserie, il y a carasse de bêtes, il y a hausse de prix des dollars. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse aller se ravitailler. C'est la population qui paye. Nous avons les canards de porc, nous avons les problèmes des poules, nous avons les problèmes des moutons, des chèvres, n'en parlons même pas. Même les œufs proviennent de l'étranger, s'il vous plaît.
Une accalmie s'observe depuis 6 mois en Ituri, mais sans aucune incidence directe sur l'élevage en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la RDC et l'Arabie Saoudite signent un protocole d'accord dans le secteur minier, protocole signé hier à Riyad, capitale saoudienne, par la ministre des Mines Antoinette Nsamba et le ministère de l'Industrie et Ressources Minérales de l'Arabie Saoudite. Les deux pays veulent développer la coopération entre les deux pays dotés d'innombrables ressources minérales. C'est en marge de Future Minerals Forum qui se tient à Riyad du 9 au 11 janvier en cours, un événement qui rassemble plus de 45 pays représentés par des officiels, des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes du secteur minier. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizi.
La RDC et l'Arabie Saoudite veulent échanger leurs expériences en matière de travaux géologiques et de technologies modernes utilisées dans l'exploration, l'exploitation minière, l'évaluation des minerais, la protection de l'environnement ainsi que d'autres sujets liés aux activités minières. Après la signature de ce mémorandum d'entente, il est prévu la mise en place d'un cadre mixte de travail qui inclura notamment le cadastre minier, le fonds pour les générations futures FOMINE ainsi que les structure saoudienne des mines pour le suivi et l'exécution des accords. En parallèle, une quinzaine de ministres des mines des pays africains se sont entretenus toujours à Riyad sur la nécessité de la création d'une plateforme continentale pour le développement d'une chaîne de valeur intégrée du secteur minier africain d'ici 2063. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la vision africaine définie dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour rappel, le futur Minerals Forum rassemble pendant 3 jours plus de 45 pays représentés par des officiels, des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes du secteur minier. Il s'agit de discuter de l'avenir de ces secteurs au niveau mondial en mettant un accent particulier sur la transition écologique.
Dans l'actualité, notez aussi que la Direction générale des douanes et accises a été performante en 2023. Elle a réalisé plus de 5 000 milliards de francs congolais en termes d'assignation 2023, alors que le gouvernement attendait un peu plus de 4 000 milliards de francs congolais. C'est le directeur général de la DGDA qui l'a dit mardi lors de la réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance signé en 2023 entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes assise à Kinshasa. La réunion a porté sur l'évaluation de la mobilisation des recettes par province et par bureau en 2023 d'une part et de l'autre sur les échanges en rapport avec les assignations de l'année 2024. Le directeur général de la DGDA félicite son personnel et les cadres qui ont abattu ce travail. Il est au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
En ce qui concerne le premier point, sans entrer dans les détails, je voudrais vous réitérer mes sincères félicitations pour l'apport déterminant de l'ensemble du personnel de la DGDA pour toute la performance réalisée dans le cadre de la mobilisation des recettes, notre principale mission, jusqu'à permettre à la DGDA de réaliser plus ou moins 5 004 milliards de francs congolais contre les assignations de l'exercice budgétaire 2023 fixé à CDF 4 949 milliards, soit un taux de réalisation de plus ou moins 102%. En ce qui concerne le deuxième point relatif aux échanges sur les assignations de l'année 2024, évaluées à 6 126 milliards de francs congolais, il convient de signaler que celles-ci sont bien plus élevées que celles de l'année 2023.
Actualité internationale. Au Nigeria, une violation de ses droits fondamentaux, c'est ainsi que la haute cour d'Abuja a qualifié la détention prolongée de Godwin Emefiele, l'ex-gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Ce dernier avait été arrêté en juin puis libéré en décembre 2023 contre une caution de 300 000 euros sans comparaître devant un tribunal. La justice vient de condamner le gouvernement nigérian et l'agence anticorruption à verser à l'intéressé 100 000 euros pour détention illégale. La haute cour de la capitale nigériane a par ailleurs interdit toute nouvelle arrestation de Godwin Emefiele sans un mandat en bonne et due forme. Alors qu'elle réfute les accusations de détention illégale, la commission anticorruption du pays a fait savoir qu'elle va faire appel de la décision de la haute cour d'Abuja. Notez que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria est visé par une enquête pour fraude.
L'invité.
Nous recevons en invité l'ingénieur Franck Saloum, chef technique de la régie des eaux Bukavu. Il nous parle des principales causes d'interruption de la fourniture d'eau dans la ville de Bukavu, causées par les cassures des conduites sur plusieurs sites érosifs, constructions anarchiques et autres. Il fait aussi un état des lieux de la situation des pénuries d'eau constatées dans plusieurs quartiers de Bukavu. Franck Saloum s'entretient avec Rachel Kiesse.
Ingénieur Franck Saloum, bonjour.
Bonjour madame.
Manque d'eau dans la ville de Bukavu, quelles en sont les principales causes?
Les causes de manque d'eau dans la ville de Bukavu sont de plusieurs ordres. Par exemple, des cassures de conduites à plusieurs sites érosifs de la ville de Bukavu. Il y a des situations que nous connaissons dans la ville qui sont dues aux constructions anarchiques. Les constructions anarchiques sont un sérieux handicap à la distribution de l'eau potable dans la ville de Bukavu. Il y a des endroits où vous allez remarquer que tous nos ouvrages des purges, les ventouses et les vidanges sont déjà obstrués par les constructions. Et il n'y a pas moyen que nous puissions intervenir rapidement. Nos ouvrages de purge sont obstrués par les constructions, ce qui est une sérieuse anomalie à la circulation de l'eau dans les conduites. Il y a un autre problème qui handicape sérieusement la desserte dans la ville de Bukavu, c'est l'extension aussi de la ville de Bukavu. La ville s'est largement étendue, notre production est restée presque la même. Et ce sont les principales causes des manques d'eau que nous connaissons dans la ville de Bukavu, parce que quand il y a cassure de conduite, il y a interruption de la fourniture.
Alors, quelle est la solution définitive, la plus réaliste, durable, pour que l'on soit vraiment desservi dans la ville de Bukavu?
Pour le moment, la solution passe par l'augmentation de la production. Il nous faut réellement augmenter la production parce que actuellement notre production dans la ville de Bukavu, toutes nos unités de production réunies avoisinent au moins 40 000 mètres cubes, alors que la ville dans son entièreté a besoin de plus ou moins 65 000 mètres cubes d'eau par jour. Pour ça, nous avons un projet vraiment ambitieux qui sera financé par l'Agence française de développement. Ce projet va consister à capter l'eau de la rivière Pungwe à la lisière du parc de Kahuzi-Biega. Nous allons construire l'usine de traitement d'eau potable au niveau de Chiriri. On va poser une conduite d'adduction de plus ou moins 35 km. Je pense que quand ce projet sera réalisé, ça sera vraiment un ouf de soulagement dans la ville de Bukavu en ce qui concerne la desserte en eau potable. Par rapport aux constructions anarchiques, la régie des eaux n'a pas une force coercitive. Nous recourons toujours aux autorités provinciales pour que ces derniers puissent nous aider à déguerpir certaines personnes qui occupent certains sites non édificants. Par exemple, les cas que nous venions de soulever, celui du site du lycée Wima, c'est un site impropre à la construction, mais les gens ont construit dessus. Les eaux de ménage, les eaux qui viennent des toits en cas de pluie, ce sont ces eaux qui s'infiltrent et qui contribuent au ramollissement du sol à cet endroit-là. Nous lançons vraiment un SOS aux autorités provinciales pour que ces gens qui occupent ces sites soient déguerpis, qu'on leur trouve un autre endroit. D'ailleurs, dernièrement, nous étions informés que toutes ces personnes-là avaient déjà des parcelles qui leur étaient données dans un autre site. C'est question seulement que les autorités appliquent la mesure, qu'on les déguerpisse et qu'à notre niveau, nous puissions sécuriser les sites en y plantant les arbres agroforestiers ou certaines plantes anti-érosives pour que ces sites soient stabilisés et que la conduite soit vraiment en bon état de fonctionnement.
Et quelles sont les mesures temporaires ou provisoires pour trouver une solution à ce problème?
Nous comptons poser une conduite en acier parce que l'acier, c'est une matière soudable facilement parce que la conduite qui passe à cet endroit actuellement, c'est une conduite qui est en fonte. Or, la fonte, elle est cassante. Quand il y a un mouvement de terre, elle se casse facilement. Nous comptons avec la direction générale poser une conduite en acier. Et ça va tant soit peu soulager cette situation, mais ce n'est pas une solution définitive. La solution définitive serait que ces gens soient déguerpis de cet endroit et que l'on puisse réellement stabiliser cet endroit.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
L'ingénieur Franck Saloumou, chef technique de la régie des eaux Bukavu au Sud Kivu, répondait aux questions de Rachel Kiesse. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Tikotati Vueta, supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.